France Inter.
Le masque et la plume. Un tueur en série avec des requins, une tueuse de la cellule alpha en Syrie, des femmes flics qui se font appeler monsieur au Népal, un shérif asthmatique au Nouveau-Mexique et une doctorante victime d'agression sexuelle en Nouvelle-Angleterre. Quel programme ! C'est celui dont on va débattre en public au théâtre de l'Alliance française avec aujourd'hui Ariane Allard de Positif, Charlotte Garçon des Cahiers du cinéma, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession et Nicolas Chaleur de Nouvelle Ops. Nous débattrons donc ensemble de Dangerous Animals de Shin Byrne, de Poudjasseur de Deepak Ronillard, BADH ou BAD de Guillaume de Fontenoy, Sorry Baby d'Eva Victor, Eddington d'Ari Aster. Alors bienvenue à toutes et à tous. Le cinéma fait sa toile à la radio, bas les masques sur France Inter. C'est la coutume, d'abord quelques courriers en cette période de vacances, peu de messages, mais des messages qui reviennent sur le traitement d'Indomptable, le film de Thomas N. Gijol, qui a fait l'objet des critiques du masque, le 15 juin dernier, c'était donc il y a 2 mois, mais manifestement, vous ne lâchez pas l'affaire, notamment sur ce qui a été dit de l'accent camerounais entendu dans le film. Paul Lemété de Plérin écrit « Ce serait tellement plus réaliste si les Camerounais ou les Jurassiens s'exprimaient avec l'accent un roco bobo plutôt qu'avec l'accent camerounais ou jurassien. » Il est rejoint par Geneviève Kaito de Besançon. « J'ai vécu 13 ans au Cameroun. En voyant Indomptable, je me suis retrouvé là-bas. Je retrouvais l'accent, les expressions, les gestes, tout, même les odeurs. Le critique qui dit que c'est surjoué à la Michel Leeb se trompe totalement et n'a jamais mis les pieds là-bas. » Mais au-delà de cette question de l'accent, Alain Gascon de Paris lui va plus loin dans une analyse politique du film. La plupart des intervenants du masque n'ont qu'aperçu le film des Indomptables sans se donner la peine de regarder. L'ironie de Thomas N. Gijol est le moyen afin de montrer combien la dictature a percolé à travers le Cameroun, sa société, sa police, les quartiers de Yaoundé et les familles. En 65 ans d'indépendance, le Cameroun n'a connu que 2 présidents, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Ce dernier, né en 1933, qui exerce le pouvoir depuis 1982, annonce sa candidature pour un prochain mandat. Toute opposition a été réprimée. La France a brisé le maquis de l'Union des populations camerounaises, l'UPC, et a assassiné son chef, Félix Mounier. Ainsi, quand le commissaire raconte dans le film à l'un de ses fils qu'il a assisté aux obsèques de son père tué, c'est une allusion transparente à la répression de l'UPC. Dans la salle de cinéma où j'étais à Paris, des Camerounais ont applaudi ce film. Quel avenir ? Les critiques du masque fassent un clic sur Wikipédia pour se renseigner. Ça prend quelques minutes. Parole d'un géographe africaniste. Alors merci pour la leçon. Et on ouvre avec Dangerous Animals de l'Australien Shin Byrne. C'est son 3e film, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, avec un pitch assez convaincant. Un tueur en série utilise des requins pour assassiner ses victimes. Où va se nicher vraiment, le pitch est vraiment formidable. Scénario pervers s'il en est, le pervers c'est lui, Tucker, qui sous couvert d'organiser des balades en chalutier pour observer des requins, balance des surfeurs, des touristes, des femmes de préférence à la mer pour se faire boulotter par les animaux. Tucker s'appuie sur une théorie selon laquelle les requins feraient régner l'ordre dans la mer, ça légitime tout manifestement. Le film s'articule autour d'un affrontement entre ce Tucker, complètement fou allié, et Zephyr, une surfeuse qu'il va capturer sur un parking, séquestré dans la cale de son chalutier pour le pire et pour nous spectateurs supposément le meilleur. Zephyr est une survival girl, mais jusqu'à quel point ? Ariane, est-ce que tu as tremblé ?
Alors, au début, j'ai trouvé ça plutôt amusant. En plus, je réagis très très facilement à ce genre de film. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, un film de requin en forme de la revanche d'une blonde, je trouve que c'était quand même plutôt sympathique au départ. Et puis, je me suis dit, est-ce que quand même, malgré tout, ce petit film australien revitalise le film d'horreur ou pas ? Et j'ai l'impression qu'il le fait, mais en surface. C'est-à-dire que cet argument d'éviter justement le rôle féminin habituel de la Scream Queen, vous savez, ces filles qui se mettent à hurler et qui meurent forcément à la fin, parce que de toute façon, c'est un peu ça le principe. Là, on tombe sur une surfeuse qui a quand même tous les atouts habituels de l'héroïne de ce genre de film, c'est-à-dire que c'est quand même juste un petit canon, cette jeune femme, sauf que par ailleurs, c'est une badass, c'est-à-dire une dure à cuire qui va se défendre. Mais une fois qu'on a dit ça, je trouve qu'on retrouve à peu près tous les arguments classiques de ce genre de film, c'est-à-dire le psychopathe complètement sadique, les requins évidemment affamés, la fille quand même, elle se débat, elle est courageuse et tout ce que vous voulez, enfin elle est quand même super sexy aussi, puis alors les ressorts psychologiques de l'intrigue qui sont quand même très sommaire, on va dire. C'est-à-dire qu'on nous la présente comme une fille super dans la survie, survival girl. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se gare sur un parking totalement désert, au milieu de nulle part, pour être évidemment la proie idéale de ce genre de type sadique. Et puis en fait, bon, le gros message qui est quand même assez lourdeau quand même, c'est-à-dire que les animaux dangereux, les dangerous animals du titre, ben, c'est évidemment pas les requins, c'est les hommes qui sont des prédateurs. Voilà.
Ah bon?
Donc voilà, donc je trouve que c'est quand même un peu lourdingue. En revanche, en termes de mise en scène, je trouve qu'il y a des choses. Voilà, je vois Nicolas Kéopine, je suis d'accord avec toi, il y a des scènes, notamment des scènes sous-marines que je trouve...
Il n'a rien dit.
Je le vois.
Oui, mais elle le voit, elle le regarde.
Je précise que c'est Nicolas, parce que c'est de la radio, donc personne ne le voit. Et je voulais donc dire qu'en termes de mise en scène, effectivement, le film, il a quand même un vrai point de vue, il y a une vraie tension. En plus, je trouve que le film a plein d'humeurs singulières, c'est-à-dire qu'on passe de la romance au thriller, du film d'horreur à l'angoisse. C'est un tout petit peu plus varié que ce genre de film, enfin de produits habituels. Dernière anecdote quand même qui m'a fait quand même beaucoup sourire, j'ai vu ce film dans une salle de cinéma assez grande. Et les 4/5 des spectateurs étaient des hommes. Donc je pense que c'est quand même CQFD. Et quand je dis 4/5, c'est presque 9/10
oui,
d'ailleurs.
Oui. Hein.
C'est-à-dire que 90%. C'est quand même un film qui s'adresse quand même à un public très particulier, très ciblé. Les garçons.
Tu en es un.
Ariane,
Xavier.
Dernière nouvelle, mais si peu, en demeurant. ce ne sera plus un argument. Alors, quand on arrive dans la salle, c'est effectivement, tu l'as signalé, Laurent, estampillé, quinzaine des cinéastes. Donc on se dit, d'accord, quinzaine des cinéastes, c'est un auteur, c'est un film de genre d'auteur. Il y avait eu The Host de Bong Joon-ho il y a quelques années. Donc on va être au niveau de Romero, de Tom Hooper, de... Non, alors pas du tout. C'est quand même d'un premier degré abyssal et affligeant, disons un tout petit peu les choses telles qu'elles sont. Alors on passe son temps à se dire, ouais, mais la quinzaine, ils ont trouvé un message politique, subversif, sociologique. Pff, rien du tout, hein. Ariane l'a très très bien décrit. Ça se passe heureusement dans la mer avec des filles en maillot de bain, parce que sinon au pôle Nord, ce serait moins drôle, évidemment. On verrait moins les formes de la jeune fille.
Puis les requins au pôle Nord, tu sais, c'est difficile.
Ça peut être... Oh, tu sais, l'ours polaire, c'est quand
même... Ah oui, l'ours polaire, oui.
Ah ouais,
un tueur en série qui balancerait des filles à des ours polaires.
Bah, moi, voilà un prochain... Drôle. Et puis c'est quand même un agglomérat très opportuniste de tout ce qui marche aujourd'hui.
Oui.
Survival,
tueur en série, et requin.
C'est parfait. Et beauf absolu, le mec toxique. Mais ça enfonce des portes quand même largement ouvertes. Ouvertes comme la gueule du requin, bien évidemment, qui atteint ses proies.
Charlotte.
Je m'en ouverte.
Oh, Maître Capello.
Oh là là,
dans le rôle pour Nicolas.
Je suis d'accord,
Charlotte,
que c'est un cinéma forain, quoi. C'est un cinéma d'attraction. Donc voilà, on marche ou on marche pas, et c'est pas non plus mon territoire habituel. Moi, ce qui m'a plutôt plu quand même, c'est que ça se passe en Australie et que le type s'attaque a priori uniquement à des touristes, et que donc il y a quand même cette idée que
donc il est pardonné, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que les
c'est
touristes...
un message subliminal.
Tu as quelque chose contre les touristes.
Il y a des jeunes influenceurs, on comprend. Voilà. Le premier couple, il y a quelques idées comme ça de jeunes influenceurs qui incarnent ce que lui, le boomer, n'est plus du tout.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent pour le spectacle des requins, donc d'une certaine façon, ils se disent, ouais, bah voilà, ils vont en avoir du spectacle, mais ça va être un spectacle sanglant. Bon, ça, c'est un peu intéressant, même si c'est vrai que Barbie surfeuse, ça va 5 minutes. Moi, ce qui m'a semblé intéressant dans ce personnage de jeune femme, c'est que quand même, elle dit en tout cas qu'elle a tout lâché, que la terre ferme ne l'intéresse pas, elle vit sans maison, elle couche avec un type une nuit, elle s'en va avant qu'il lui fasse le petit déjeuner. Et finalement, quand même, il y a plusieurs, dans la mise en scène, il y a plusieurs choses qui m'ont fait penser à Chaplin.
Ah bon? Ah oui, d'accord, mais tu as
j'adore
des
les cahiers
par exemple, mais oui, par exemple, elle se nourrit seulement de petits pains ronds, comme dans La ruée vers l'or, et puis à un moment, on la voit assommer son adversaire avec une poêle à frire. Enfin, vraiment, les moments d'action sont en fait tournés de manière parfois un peu burlesque, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce que je n'ai pas aimé, en revanche, c'est le côté un peu ce qu'on appelle elevated horror, qui n'est pas, c'est-à-dire ce fameux ennoblissement
gentrifié
du genre, et qui serait cette idée que le type, en fait, il veut des snuff movies, c'est-à-dire qu'il organise la mise à mort des jeunes femmes avec une caméra. Et c'est un film. Donc le côté film dans le film, pour nous dire à nous, spectateurs, bah, vous êtes comme cet ogre, en fait, vous, vous êtes assoiffé de sang, et c'est pour ça que vous allez au cinéma et voir des films d'horreur. Et en fait, ça, enfin, non. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un poncif, je trouve, et sur le spectateur, et sur le regard du cinéaste.
Très Nicolas. Très opportuniste, parce qu'en plus, le film ne joue que là-dessus, sur la pulsion, l'attente de la mise à mort. Moi, c'est vrai, quand je suis arrivé au Max il y a quelques années maintenant, je m'étais dit, et que j'entendais l'émission avant, je me disais, le cinéma de genre, il est quand même maltraité, il est quand même regardé de haut, et puis j'aimerais bien que de le défendre et venir. Et c'est vrai que depuis quelques
années... Bah ton heure est venue.
Mais non, mais depuis quelques années, depuis que je suis là, le cinéma de genre, il va pas hyper bien non plus. Ou en tout cas, on débat pas forcément de ceux qui pourraient toujours être les plus intéressants. Et là, moi, voilà, effectivement, je me réjouissais assez d'aller voir ce film, en plus estampillé quinzaine des cinéastes. Et ben, bon, vous l'avez tous dit, effectivement, c'est pas beaucoup plus que ce que ça a l'air d'être. Moi, pour le coup, il faut citer son nom, Asiya Harrison, la jeune actrice. Oui. Moi, elle m'a plutôt réjoui, mais parce qu'elle a comme ce côté badass qu'elle a. Elle a, oui, non mais.
Non mais vas-y.
Et heureusement qu'elle
est là. En fait, tu es Barbie qui fait du surf, ça te convient.
Ouais, mais c'est une Barbie un peu particulière. Elle a un visage comme ça. On dirait qu'elle a un visage refait, alors qu'elle n'est pas refaite. Elle a un truc. Elle a une présence. Elle a un truc quand même assez intrigant.
Voilà.
Je cherche des choses. Et c'est vrai qu'à côté, le beau gosse qui est vraiment relégué à espèce de d'objet un peu de fantasme, qui est même ridicule tellement il est trop beau gosse. C'est marrant. Voilà, ce retournement est assez amusant. Mais effectivement, le film n'en fait pas grand-chose. Je rejoins quand même Ariane sur le fait que le film, dans la mise en scène, il y a vraiment une espèce d'inventivité, de légèreté, mine de rien, et il y a un peu comme ça de malice dans certaines idées de plan et de montage et de mise en scène. Après, voilà, je pensais vraiment prendre mon pied, si j'ose dire, et le film est vraiment, n'est pas beaucoup plus que ce qu'il a l'air d'être, malgré cette idée, effectivement, que maintenant qu'on a tous dévoilé, qu'en fait, les vrais tueurs ne sont pas les requins.
Dangerous Animals de Sean Byrne. Sorry Baby, c'est une toute autre histoire que raconte ce film indépendant américain de la réalisatrice et comédienne Eva Victor, qui était, je vous le donne en mille, en séance de clôture de la sélection de la quinzaine des cinéastes à Cannes. Manifestement, la programmation était éclectique. Alors, Sorry Baby, c'est le premier film d'Eva Victor qui joue elle-même Agnès, doctorante, une trentaine d'années, violée par son directeur de thèse. Le film est construit en 5 chapitres, 5 années, mais sans jouer la chronologie. Ça commence des mois après le viol, pas de pathos. Eva Victor joue les digressions, ne s'installe jamais dans son film, qu'elle fait basculer aussi dans l'humour. Sorry Baby compose une ode à l'amitié, ou alors... sororité, comme on dit aujourd'hui, avec le personnage de Lydie, sa meilleure amie, son lien vital, alors même que les aides institutionnelles sont défaillantes. Dans la note d'intention, elle dit quelque chose qui m'a assez intéressé. Plus que de filmer la violence ou les agressions, c'est la guérison qui m'intéressait. Je tenais à explorer ce sentiment d'impasse, le fait de voir des gens qu'on aime aller de l'avant, tandis que soi, on reste coincé dans le souvenir qu'on a vécu. J'ai voulu faire ce film pour la personne que j'ai été. Charlotte.
Oui, moi j'ai été sensible au lieu d'abord, au décor, à l'atmosphère, ce côté automne perpétuel comme ça, de saison mentale qu'il y a sur ces petits campus de l'Est des États-Unis. On ne doit pas être très loin de Boston vu l'accent. Et en fait, le film commence sur un plan de façade de la maison où Agnès, cette ancienne thésarde mais devenue professeure, vit encore alors qu'elle était déjà en colocation avec cette amie qui, elle, est partie depuis longtemps vivre à New York. Et donc, ce surplace, il est juste là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas dramatisé, c'est pas psychologisé à outrance, et on aura à un autre moment du film une autre façade, une autre maison avec comme ça un système d'écho. Et je trouve ça assez beau de montrer quelqu'un qui s'est discrètement enterré, mais à bas bruit quoi, dans la vie. C'est-à-dire que justement, c'est un film pas sur le trauma au sens où il serait dramatique, déchirant. Il y a quelque chose d'un peu arasé comme ça, qui je trouve donne un ton. Alors on peut trouver que c'est un peu comme les tenues que porte l'héroïne qu'elle joue elle-même, c'est-à-dire des t-shirts trop grands comme pyjama, etc. Il y a un côté confortable, un peu mou, quand on porte des basiques, quoi. Est-ce que le film serait pas un peu ça Mais pourtant, il est assez court, parce qu'on s'ennuie pas du tout, et c'est cette façon indirecte dont tu parlais, qui permet de parler du traumatisme d'une autre façon, et de parler surtout du temps d'après, quoi. Parce que, en fait, ce qui reste le plus longtemps, quand on vit longtemps, bah, c'est tout ce temps-là qu'il va falloir continuer à vivre. Et je trouve que justement, justement l'indirect, alors l'indirect du fait de ne pas nommer ce qui lui est arrivé exactement, mais aussi l'indirect dans le temps, avec une construction du récit particulière en flashback, et puis l'indirect aussi dans la mise en scène, il y a une sorte d'indirect spatial, parce que la fameuse mauvaise chose se passe, on reste devant la façade.
Devant la façade, devant la maison.
Quelque chose se passe à l'intérieur, et pourtant, ça ne fait pas mystère. Et juste l'indirect, enfin, c'est comment les gens qui ne savent même pas qui nous aident, nous aident. C'est-à-dire pas seulement nos amis, mais en fait un type qui va nous
voisiner,
un voisin.
Ça, c'est une très belle scène. Ouais.
Sans avec même le voisin. Être des bons samaritains, mais simplement, ils ne le savent pas. Mm. Et leur attitude fait qu'on va un peu mieux.
Nicolas.
Oui, c'est un beau film parce que c'est un film qui se déploie au fur et à mesure. Moi, au début, vraiment, j'ai eu très peur. Les deux premières scènes, c'est deux amis qui se retrouvent, qui discutent et qui parlent incessamment de leur relation sexuelle, de leur rapport aux hommes et tout ça. Et j'ai vu une espèce de version un peu forcée d'un cinéma indépendant qui se veut comme ça, un peu, allez, on dit les choses, on surjoue l'amitié. Après, il y a une scène de repas entre amis qui, pareil, je trouve ça un petit peu très écrit, un peu très théâtral. Et le film se déploie au fur et à mesure. J'ai même revu ce début et qui est beaucoup plus mieux passer la deuxième fois en perspective de ce que je savais qu'allait être le film. Et au fur et à mesure, le film vraiment se déploie, au fur et à mesure que le sujet se révèle et sort de l'ombre, on comprend mieux pourquoi ce côté forcé au début, ce jeu-là, quelque chose qui passe pas, quelque chose d'un peu artificiel, alors que ce sont deux meilleurs amis. Et vraiment, plus le film avance, plus je le trouve délicat et subtil et vraiment assez beau, cette manière de traiter ce traumatisme après une agression sexuelle. Et il y a des scènes comme ça, fur et à mesure, qui sont d'une force comme ça, très discrète. Par exemple, la confrontation avec le gynéco, qui prend une forme de déposition, qui lui demande alors qu'est-ce qui s'est arrivé, le mec un peu blasé, comme ça, un peu vieux, et qui lui pose des questions, et elle répond de manière très cash, comme si elle voulait, on a presque l'impression d'une provocation, la pénétration, alors ça a été très rapide, ça a duré. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très juste, je trouve, dans l'évolution psychologique du personnage, et à la fin, ça aboutit à des scènes vraiment, vraiment très, très belles, notamment une rencontre avec un passant, un inconnu, à qui elle se confie, mais de manière totalement. Assez suggéré, et leur échange est vraiment très beau. Il y a comme ça, un regard sur les hommes qui n'est pas univoque, quoi. Il y a vraiment une vision quand même assez ouverte. Et puis une très très belle scène de fin, un dialogue à une voix avec un bébé. Et je trouve qu'il y a chez cette jeune femme, parce que c'est quand même un premier film, qui c'est pas rien, Eva Victor, quelque chose de Phoebe Waller-Bridge, qui était la créatrice de la série Fleabag, mais sans le côté grinçant. Il y a moins d'humour, mais il y a vraiment comme ça cette sensibilité-là, qui est vraiment intéressante. Et je trouve pour un premier film, sur un sujet quand même très, très contemporain et très traité, c'est un film d'une assez belle délicatesse.
Ariane.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un film en plus qui dépose et qui reste longtemps.
Je regarde Xavier. Je vois presque envie de lui donner la parole. Non, vas-y, Ariane.
Je sens.
La parole à la défense.
Je vais aller assez rapidement. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. D'abord, pour moi, c'est vraiment la naissance d'une cinéaste et l'émergence d'une personnalité qui est très singulière. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à une cinéaste américaine, pareil, qui était actrice, autrice et réalisatrice, qui s'appelait Miranda July, qui a commencé à faire des films dans les années 2000. Le plus connu, c'était Moi, toi et tous les autres. Ou, un petit peu plus tard, à Greta Gerwig, au début, époque française A, cette espèce de petit burlesque un peu décalé qui, en fait, racontait au fond une vraie détresse et une adéquation au monde, quoi, en fait. Et j'aime assez bien qu'elle passe par là, les trois. Et voilà. Et la deuxième chose que j'aime énormément, c'est son écriture. Et vous l'avez dit, mais moi, j'ai envie d'en reparler, c'est son rapport au temps et à la durée. L'histoire de découper le film en 5 chapitres, c'est pas pour faire brancher ou parce que c'est à la mode ou parce que c'est un recours assez systématique aujourd'hui. Ça permet de rentrer en profondeur à la fois, et surtout, ça permet de ne pas réduire, le personnage principal à son seul trauma, au seul viol. C'est-à-dire qu'on la voit avant, on la voit pendant et on la voit après. Et du coup, ça donne une complexité, une richesse à ce personnage qu'il n'aurait jamais été si on était parti dès le départ. Voilà. Et je voulais juste rajouter, pas plus longtemps, la façon dont ce viol est filmé, c'est aussi une façon de raconter son rapport au temps et à la durée. Vous l'avez tous dit, il y a juste un plan fixe, silencieux, sur une maison, où elle est à l'intérieur avec son prof, et on comprend la violence de ce qui se passe uniquement par le déclin de la lumière du jour. C'est-à-dire que ce plan, ça commence en début d'après-midi, ça termine en fin de journée, et c'est juste cette durée qui nous indique l'horreur qui peut se passer à l'intérieur de cette maison. Moi, pour moi, c'est la naissance d'une vraie cinéaste.
Ça, c'est le plaidoyer, un réquisitoire, manifestement, Xavier.
J'aurais tellement aimé voir le même film que vous et l'aimer autant. Je l'ai vu deux fois parce que je voulais vraiment certifier mon désamour. Et il y a une scène qui, pour moi, résume tout le film, enfin en tout cas tout le rapport que j'ai au film, c'est quand elle donne des cours, Lolita, c'est un roman qui traîne un tout petit peu dans le film, un élève est en train de lire, il y a un gamin qui interrompt l'élève qui est en train de lire, la prof ne lui dit rien, elle lui donne la parole et elle lui dit mais qu'est-ce qui te gêne dans Lolita? Il dit bah madame, les sujets m'intéressent énormément mais la manière dont c'est raconté ça me fout les boules. Et ben c'est exactement le problème que j'ai avec le film, c'est-à-dire qu'évidemment il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus, le sujet du viol doit être traité et il doit l'être de toutes les manières dont les autrices et les auteurs veulent s'en emparer, c'est pas moi qui vais commencer à orchestrer effectivement une hiérarchie, sauf que elle fait tout le temps du cinéma et elle nous montre qu'elle fait du cinéma et qu'elle orchestre effectivement la chronologie de manière hyper malicieuse. Regardez, le pendant, l'avant, le près, l'après. Si, si, attends, plisse pas des yeux, Nicolas. Ta mauvaise foi ne peut pas aller au-delà de cette construction, effectivement.
Reprocher à un film de faire du cinéma, c'est embêtant.
Ouais, mais non, parce que ça, ça dépend ce que tu fais, c'est-à-dire allonger les temps de parole.
En dehors de cette construction, il y a une modestie dans chaque approche de chaque scène.
Non, il n'y a aucune modestie, tu ne peux pas dire ça.
Une retenue, c'est pas une retenue modeste,
marquer son territoire, regarder comment c'est pensé.
À part le chapitrage, je vois pas encore. Et ce début, effectivement,
pendant tout le film, à symboliser, théoriser, métaphoriser le film. Il y a un moment où, effectivement, il y a de la lumière dans sa chambre, de nuit, elle ne sait pas comment obstruer la fenêtre. Elle va coller cette thèse qui a été l'origine du viol dont elle a été victime et qui l'empêche de voir à l'extérieur. Vous pouvez décrypter chaque plan sur un plan symbolique et métaphorique, ce qui fait que zéro émotion.
Je l'ai pas vu, moi,
zéro ça. Empathie pour cette fille qui est effectivement totalement atrabilaire, la scène avec le gynéco, je ne la comprends pas pourquoi elle agresse-t-elle surtout sa copine. On fait un peu brancher avec une amie lesbienne qui va avoir un enfant et alors, le monologue de la femme face à l'enfant, tu pourras venir me dire quand tu seras dans la douleur, cette obsession du suicide, c'est quand même du prêt-à-penser, quoi.
Sorry Baby d'Eva Victor, le
Sorry Xavier.
Absolument. Oui, c'est Sorry Xavier.
Moi, je croyais que la parole était libre, mais si elle est
mais la parole est libre, Xavier.
Il aime pas les bébés.
Au débat.
On passe à BADH ou BAD, maintenant, de Guillaume de Fontenoy, qui avait réalisé Sympathie pour le diable, bardé de prix en 2019. Et il a commencé d'ailleurs en 1996 avec Ruth, une adaptation de L'homme assis dans le couloir de Marguerite Duras. On peut dire qu'il a changé de registre aujourd'hui. Avec BAD, une Jason Bourne au féminin. BAD est une agente secrète, membre de la cellule Alpha, qui doit éliminer un trafiquant d'armes en Syrie. Alors juste la cellule Alpha, pour resituer, en fait, c'est une cellule clandestine qui opère de façon ciblée en dehors de tout cadre juridique. Par exemple, François Hollande avait fait appel à eux pour assassiner en Syrie des Français djihadistes parce qu'il avait trop peur qu'ils reviennent. Mais rien ne se passe comme prévu, c'est la scène d'ouverture. BAD entre dans la maison, problème, il y a aussi la femme et les enfants qu'elle refuse d'éliminer, donc la mission est compromise. Elle décide alors de s'effacer, refait sa vie au Maroc avec son mari. Mais là encore, rien ne se passe comme prévu, son passé la rattrape et l'entraîne dans une spirale de vengeance. Sur l'affiche, on voit le visage de Marine Wacht avec trois adjectifs, effacé, traqué, insaisissable. Est-ce que vous avez saisi le film tous et toutes, Nicolas?
C'est surtout le titre BAD qu'il faut prendre en compte plus que les trois mots que vous venez de citer. BAD, tout est déjà là. Enfin, BAD, comme depuis que Michael Jackson en a fait un tube, on sait que ça veut dire mauvais. Avec un H en plus. Oui, alors moi, j'ai toujours pas compris d'où venait ce titre. Parce que visiblement, c'est le surnom de l'héroïne, mais je me souviens pas. Donc,
personne ne le prononce ou presque.
Je me souviens que dans le film, ils en parlent, je me souviens pas. Et je pense que ce film est assez, finalement, assez symptomatique. Et je suis d'autant plus surpris du ratage de ce film que j'avais vraiment beaucoup aimé son précédent Sympathie pour le diable, qui était donc sur l'expérience du reporter Paul Marchand durant la guerre en Bosnie, et qui était vraiment très très fort, qui sortait de nulle part, et qui était vraiment vraiment avec Nils Schneider, qui était vraiment formidable aussi. Et là, alors, pour moi, c'est vraiment la malédiction du deuxième film, mais visiblement il en avait fait d'autres avant, donc ça marche pas. J'en déduis qu'il y a eu d'ailleurs des problèmes de production, qu'il n'a pas pu aller au bout de son ambition, parce que quand on voit ce qu'est le film, alors on sent qu'il y a quand même une envie de mise en scène, ouais. Une envie d'épure, de tout miser sur un pur geste de mise en scène, mais pour ça, il faut déjà avoir un scénario en béton, ce qui n'est vraiment pas le cas, et avoir du style. Et là, moi, le style, ça manque énormément. Alors, première scène d'ouverture quand même assez forte, où on voit Marine Wacht qui s'introduit dans cet appartement, qui doit tuer tout le monde. Elle le fait pas, elle s'en va. Il y a un type qui arrive, qui met une bombe pour faire sauter l'immeuble, et elle avec. Et alors là, l'explosion, mais alors, je suis désolé, mais on dirait qu'il y a un pétard qui explose, et on doit comprendre derrière que tout l'immeuble a sauté et que tout le monde est mort. Et après, à côté de ça, ils se mettent des bourre-pifs qui font le bruit d'une explosion nucléaire. Donc, il y a à la fois un problème de production, il y a un problème de regard, il n'y a pas de regard, et ça se voudrait être du Jason Bourne. À d'autres moments, on croirait qu'elle est chez Melville. Elle fait des espèces de regards comme ça, de regards stoïques, où doivent passer plein de choses, mais on ne sait pas quoi. Alors, à côté de ça, Marine Wacht, c'est dommage parce qu'elle est plutôt crédible. Neil Schneider et Grégoire Collin, qu'on revoit un peu plus, qu'on voyait plus depuis un moment dans quelques films, sont pas mal non plus, mais ils n'ont rien à jouer. Donc vraiment, c'est un symptôme pour moi d'un cinéma français qui, je pense, a une certaine ambition. Je ne doute pas que Guillaume de Fontenay en avait, mais j'ai l'impression qu'il manque une partie du film. En l'état, c'est vraiment un beau ratage.
Xavier ?
Comme quoi tout arrive, je suis presque d'accord avec Nicolas.
Mais c'est pas
ça
possible.
Ça ne durera pas.
Ah bah non.
Mais voilà, c'est la fin de cette saison et il faut effectivement saluer cet exploit. Moi, j'avais comme toi beaucoup aimé Sympathie.
Avec le diable.
Avec le diable, voilà, qui était vraiment un film d'une force, d'une puissance, d'une anxiété, mais de chaque plan. Là, il a le droit d'aller faire un pur film de genre, effectivement, un archétype, du principe.
Oui, pourquoi pas.
Moi, j'ai pris ça au début plutôt avec envie. Parce qu'encore le souvenir, puis au fur et à mesure, effectivement, les personnages n'existent pas, ils sont fantomatiques, on a l'impression d'un pilote d'une chaîne qui n'y croirait pas, qui essaierait d'envoyer ça pour développer une série qui n'existera évidemment jamais. On est ahuri de voir qu'effectivement les comédiennes et les comédiens qu'on aime beaucoup n'ont rien à jouer, à part le post-it qu'on leur a envoyé ou le SMS pour leur dire bah, tu vas jouer ça. Ils s'en tirent, mais comme ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ont assez de métier, assez de charisme pour essayer de nourrir tout ça, mais il est clair que les personnages ne sont pas écrits. Il me reste quand même le souvenir d'une poursuite à moto et surtout, à un moment, une bagarre sur échafaudage que je trouve assez brillante en multiplication des angles de vue, en effet de montage.
Elle est illisible.
Non, je ne te laisserai pas la parole, tu peux essayer. Et puis, dans laquelle figure un comédien dont on n'a pas parlé. C'est Grégoire Collin, qui est absolument formidable. Si, dans tout.
Il en a parlé. Il en a parlé.
Oui.
Pardon, je m'endors à chaque fois que tu parles.
Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer.
Voilà, c'est pas bad, c'est narc.
Voilà, exactement.
Charlotte.
T'es beaucoup mieux d'ailleurs en arc.
Oui, mais c'est vrai qu'on voit que la France essaye de faire un film
mais
d'action,
voilà.
Je sais pas comment
mais
dire. Et ça fait parfois pitié, mais ça fait aussi parfois...
Bon. J'ai cru que tu allais être gentille.
Moi aussi.
C'est vrai que non, mais c'est un peu une série B et c'est court, donc il y a une.
Ah, mais une série B, ça peut être bien.
Oui, mais justement, bah oui. Il y a une sécheresse qui est assez appréciable. Après, comme ils jouent, ils sont pas dans un petit commissariat de quartier. Ils sont à la DGSE, donc ils prennent des airs hyper sérieux. Et du coup, on attend quand même un peu un arrière-fond politique. Mais en fait, ça manque d'épaisseur. Il y a pas ce feuilleté comme ça géopolitique qui est promis dans la scène d'ouverture en Syrie au début. Mais du coup, je me suis mise à penser à ces acteurs, c'est-à-dire Emmanuel Berco, Marine Vaxe, Stanislas Mérard et Grégoire Collin, parce que Neil Schneider, il est vraiment très, il arrive très tard.
Il fait deux apparitions.
Il y a Simane Dazy aussi, qui est un très bon comédien.
Voilà, je me suis dit, est-ce que eux, qui sont pas des stars françaises très sur le devant de la scène, est-ce que ce serait pas justement la cellule alpha, c'est-à-dire que qui tout à coup,
c'est vraiment une showrunner,
se dirait, on va passer clandestinement du côté du film industriel, on n'a plus grand-chose à perdre. De toute façon, on est déjà invisibilisé dans le cinéma français. Donc, on n'en peut plus de notre cinéma d'auteur. On veut faire des films d'action. On veut
flinguer
tout le monde. comme dirait Nicolas. Et donc, voilà, ça m'a un peu divertie.
Belle théorie du côté de Charlotte.
Oui, Ariel. Alors moi, ce sera moins théorique. Je pense effectivement que son modèle, c'est les modèles anglo-saxons. En plus, ça se passe dans un milieu d'agents secrets. Donc évidemment, on pense à Jason Bourne, on pense à James Bond même, hein, on peut le citer. Et du coup, ça fait vraiment un peu chiche, quoi. Tous les éléments sont là. C'est la vengeance, c'est les courses-poursuites, c'est les cascades à foison. Sauf que le cocktail, il est très fade, quand même. Alors moi, je
un
me rappelle...
Un petit foison, quand même.
Ah, et oui, ça ouira.
Un petit feu.
Ah, et ça ouira. Parce que c'est quand même chic.
Voilà.
Donc du coup, la seule chose que j'ai retenue, parce que je trouve que c'est quand même très faible, moi je garde quand même l'idée que Marine Vaxe dans un film d'action, puisque c'est quand même très à la mode aujourd'hui de trouver des héroïnes dans des films d'action, il y a plein d'actrices qui s'y essaient, au mieux on a l'impression que c'est une parodie, et je trouve qu'elle est tout à fait crédible et adéquate. Alors je ne sais pas si ça vient de sa personnalité, c'est je pense une actrice assez farouche, ou si c'est parce qu'on la voit peu et qu'à chaque fois qu'elle fait un rôle, ben voilà, elle est surprenante. En tout cas, je la trouve très remarquable.
Bad de Guillaume de Fontenoy. On quitte la Syrie, on quitte le Maroc, on quitte Essaouira, direction le Népal en cinémascope avec Pooja Sir de Deepak Roniyar. Là encore, c'est une femme qui est au centre de l'action, une inspectrice Pooja. Pooja qui signifie vénération, qui signifie adoration. Pooja est investie dans une affaire d'enlèvement de deux garçons dans une ville près de la frontière du Népal. Son arrivée à Katmandou est particulièrement difficile, manifestation raciale, émeute. Elle demande de l'aide à une autre policière sur place. Mamata. Les deux femmes sont directement visées par la violence de la société népalaise très discriminante. Sur l'affiche, il y a cette phrase « Au Népal, les femmes flics se font appeler monsieur ». Même s'il y a quand même eu des progrès au Népal, je rappelle qu'il a fallu quand même attendre 2023 pour que le président modifie la loi qui interdisait aux femmes de transmettre la nationalité népalaise à leurs enfants. Bon. De fait, l'histoire de Pooja, qui fait face donc aux discriminations raciales et de genre dans le film, a rejoint aussi l'histoire même du film qui a été fortement censuré au Népal. Le réalisateur politiquement engagé dans la défense de la population malaisie dont il est issu a dû apporter beaucoup de modifications et notamment la disparition d'images d'archives où le Premier ministre actuel s'en prenait aux députés malaisie et les insultait. Vous avez vu la version non censurée. Xavier, est-ce que tu as été convaincu ?
On parlait tout à l'heure de Dangerous Animals qui n'arrivait pas à transcender son registre de cinéma de genre d'horreur. Là, je trouve que sur le principe du film polar 2015, donc presque historique d'une certaine manière, puisqu'il y a l'édiction d'une loi par le Premier ministre qui souffle devant, c'est-à-dire à la fois l'apaisement et en même temps qui rallume les braises de certains conflits, puisque la lettre laissée par le ravisseur est explicite par rapport à un des propos du ministre à un moment. Le réalisateur, vraiment, et tu l'as très bien dit, sur la longueur du scope, et je pense que vraiment en termes de mise en scène, c'est extrêmement intéressant, raconte non seulement cette histoire policière, raconte aussi la place des femmes dans la police népalaise. Il y a un moment, il y en a une qui dit « on n'est pas nombreuses », c'est clair, c'est émergent, mais c'est loin d'être évidemment égalitaire. Et la manière dont le scénario, mais combiné à la mise en scène aussi, ramène énormément de contextes historiques. C'est la lutte des castes, c'est la lutte des classes, c'est la lutte des sexes, c'est la lutte de beaucoup de choses. À un moment, l'intrigue va vers la manière dont les opposants sont systématiquement éliminés grâce ou entre guillemets par l'entremise de cette enquête qui effectivement part dans tous les sens. Il faut dire qu'un des deux enfants kidnappés est celui d'un député. Son épouse, grâce à la fonction de son mari, a réussi à privatiser une école publique. C'est toute une intrigue à l'intérieur. Donc je trouve que la manière de ramener toujours dans l'histoire et de manière fort pertinente le contexte sociologique, politique, historique est extrêmement malin. Elle est lesbienne, c'est très clair. Même, enfin, c'est pas, y a pas de scène explicite, mais elle enlace sa copine au début du film. Donc il y a quand même énormément d'audaces qui ne sont pas uniquement là pour être des audaces, mais pour raconter aussi quelque chose de ces personnages-là. Et le scope permet effectivement de faire exister à l'écran à la fois le premier degré de l'intrigue, le deuxième degré, l'arrière-fond politique, et en même temps quelque chose de presque documentaire quand ils se mettent à interroger les gens des quartiers. Et j'ai trouvé ça très fort et très recommandable.
Nicolas ?
Merci. Alors, comment dire?
Manifestement, non, tu n'es pas d'accord.
Effectivement, sur le papier, le film est vraiment passionnant. C'est-à-dire que, abordé par le biais d'une enquête policière, c'est vraiment un film policier, toute cette histoire politique du Népal que nous, on ne connaît pas. Donc, il y a un carton qui nous explique au début ce que sont les Madhésis. C'est assez passionnant de parler de ça à travers, effectivement, une enquête policière avec ce personnage quand même assez fascinant de flic, même physiquement. Elle est dingue. Elle est toute petite. Elle a ses lunettes de soleil de noir, un peu de dur à cuire. Et, tout ça est super, c'est des super ingrédients, mais alors moi ce qu'en fait le film, je trouve ça très très démonstratif. Je trouve que justement le didactisme prend toujours le pas sur l'enquête et sur le cinéma, sur la manière de mener cette intrigue. Tu parlais du scope, effectivement le scope il est là, il est large, mais je trouve que il est presque trop large et trop pesant pour les capacités de... J'ai l'impression qu'on regarde par le petit bout de la lorgnette avec un écran scope, c'est-à-dire que la caméra se balade comme ça, elle est assez flottante, il y a des scènes de manifestation qui sont assez impressionnantes, comme visiblement, elles ont été recréées pour le film, ce qui est quand même un défi de production et audacieux dans ce pays-là quand on tourne contre la censure. C'est étonnant que ça sorte, d'ailleurs, mais tant mieux, d'une certaine manière, de s'ouvrir à un cinéma népalais qu'on ne connaît pas vraiment. Mais je trouve pas que ce soit une réussite de mise en scène et qu'on a parlé avec Xavier, j'aurais bien aimé avoir vu le même film encore une fois.
Et vous ne voyez jamais le même film.
Et pareil, l'homosexualité du personnage principal, il est posé. Mais alors, il n'est jamais interrogé
Ça, c'est plutôt pas mal, justement.
Pourquoi serait-il interrogé? Ça, c'est vraiment le point de vue occidental sur le cinéma.
Mais pas du tout. Le sujet du film, c'est le conservatisme, le racisme, la misogynie, le patriarcat de cette société. Et cet élément quand même crucial du personnage, c'est pas qu'il soit questionné. Moi, j'ai aucun problème avec ça, bien sûr. Mais c'est qu'il soit mis en perspective et mis en scène dans le film.
Ariane.
Moi, je trouve effectivement, il y a un défaut d'écriture. Moi, j'aime beaucoup la réalisation. Je suis comme toi, je trouve qu'il y a une ampleur, une nervosité, c'est un vrai polar, il y a même des moments où j'avais vraiment l'impression d'être presque dans du Scorsese. Moi, franchement, j'ai aimé. Mais au niveau scénario, je trouve que c'est très confus parce qu'il a voulu agréger plein de thèmes. Donc, il y a effectivement le statut des femmes, le patriarcat, les troubles politiques, la discrimination raciste, la corruption et le statut des personnes homosexuelles. Mais il n'en fait rien de cette homosexualité. C'est-à-dire que moi, je vois ça purement, il y a une pure fonction narrative, c'est-à-dire qu'on veut nous présenter une femme qui est en dehors des clous partout, c'est-à-dire que c'est une femme dans un monde d'hommes, c'est une fille qui arrive de la capitale dans une province, donc elle n'a pas la même couleur de peau, c'est bien spécifié à un moment oui. donné, elle a une peau plus claire, et elle est homosexuelle dans un monde qui ne l'est pas. Voilà. Ça aurait été une femme hétéro, ça aurait rien changé à l'intrigue et au récit. Pour moi, c'est une vraie faiblesse. Malgré tout, je suis comme ce que tu disais, Laurent, au départ, c'est quand même un film courageux, c'est-à-dire qu'il y a quand même un propos politique. Moi, ça m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Donc disons que j'ai un avis plutôt mitigé sur le film.
Et Charlotte ?
Oui, effectivement, en fait, le récit sert l'exposé.
Voilà.
Donc c'est une sorte de dossier où il rajoute une feuille, au bout d'un moment, c'est un peu étouffant. Et j'ai aussi trouvé que cette héroïne, d'ailleurs, qui s'étouffe parce que les plats sont trop épicés, les plats Madési sont trop épicés, elle est nous, je pense qu'elle est là, parce que nous, en tant que spectateurs, on est a fortiori encore plus extérieur, et elle arrive, et son regard extérieur voilà, est censé nous guider. Mais même ça, alors lui, il est Madési lui-même.
Tout à fait. Ouais.
Et on a différents degrés de minorité, puisque le commissaire avec lequel elle travaille sur place, le capitaine, est lui un Madési qui est anti-Madési d'une certaine façon. Il est monté en grade et du coup, il ne veut pas parler sa langue d'origine parce que ça le ramène à une classe ou à une caste. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Cette idée de zone frontalière, quand on est dans une zone frontière, ça crée plein de choses très intéressantes. Sauf qu'au lieu d'utiliser ça, me semble-t-il, pour la fiction, il fait l'inverse, il utilise sa fiction pour nous faire un exposé.
Poudjasseur de Deepak Ronillard. On termine avec Eddington d'Ari Aster. Eddington, petite ville du Nouveau-Mexique, ça c'est pour le lieu. Maintenant un marqueur temporel, mai 2020, rappelez-vous, période Covid, cette période qui nous aura fait changer d'air, entrer dans une période de violence, de guerre menée par des régimes autoritaires. Je ne vais pas vous faire la leçon. La violence est au centre d'Eddington à travers l'affrontement western d'un shérif incompétent notoire, c'est Joaquim Phoenix, et du maire démocrate d'origine hispanique, Pedro Pascal. Le premier se portant candidat à la mairie du second. Eddington devient devant la caméra d'Ari Aster le précipité de tous les maux qui affligent actuellement l'Amérique. Violence conspirationniste, racisme systémique, violence policière, avec en son centre une femme, bien évidemment. Emma Stone, la dépressive femme du shérif, une artiste ratée qui produit des poupées affreuses, métaphore des agressions sexuelles dont elle aurait été victime et qui bascule du côté d'un gourou prédicateur. Ce qui n'arrange rien à la situation qui va littéralement exploser. Le film tire à bout portant absolument sur tout le monde, jusque sur un groupe de jeunes wokistes abrutis par leur mauvaise conscience d'être blancs. Ariane, est-ce que tu as aimé ce jeu de massacre qui compte aussi des gags parfois à la frère Cohen ?
Alors non. J'étais vraiment très rétive à ce film. Je pense que ça va être un film très clivant. Hein. C'est vrai que ceux qui ont adoré vont vraiment le porter au nu. Moi, j'ai l'impression que le Covid pour Aster, ça l'a encore plus terrifié que n'importe quel film d'horreur. Et que ce film, en fait, ce Covid, c'est un moment qui cristallise à peu près tout ce qui est pire pour lui dans l'humanité. Donc, effectivement, moi, c'est ce côté foutraque avec tous les travers, tous les excès, toutes les dérives, toutes les pertes de repères. Alors, effectivement, ça se passe aux États-Unis parce que c'est l'Amérique trumpienne. Donc, on a bien compris que c'était une satire de l'Amérique trumpienne aujourd'hui. La charge, elle est extrêmement lourde. Alors, j'espère pour lui que ça a été une façon pour lui de conjurer toutes ses peurs. Moi, en ce qui me concerne, je me suis quand même beaucoup ennuyée parce qu'en plus, c'est un film d'une lourdeur qui manque de rythme. On n'attend qu'une chose, c'est cette explosion quand même qu'on attend depuis le début du film et qui arrive quand même très tardivement. Je crois qu'il dure 2h30 le film. Hein. Donc c'est quand même méga long.
27.
Tu parlais du personnage féminin. Excuse-moi, il y a quand même un personnage. C'est celui qui est incarné par Joaquin Phoenix, qui est à peu près de tous les plans. Donc on a intérêt à aimer cet acteur. Il se trouve que moi je l'aime bien. Donc bon, ça va. Mais les autres sont quand même. Enfin, Pedro Pascal, il disparaît assez rapidement. Elle a quand même un rôle. Elle fait des petites apparitions. C'est des petits pop-up dans le récit. Mais enfin, elle est pas là très longtemps. Voilà. Moi, je trouve que ce film est pas une charge. C'est une caricature. Et en termes d'écriture, il a quand même fait beaucoup mieux, Ari Aster.
Charlotte ?
En fait, je l'ai vu deux fois, mais pas dans ce sens-là.
Mais vous voyez tous les films deux fois. Non,
parce que il m'a effectivement exaspérée par son cynisme, on pourrait dire, une première fois, par sa lourdeur, sa violence. Ça fait un peu penser à Yorgos Lanthimos, avec en plus Emma Stone, qui est une actrice récurrente chez Lanthimos. Donc cette complaisance dans le fait de dépeindre un genre humain dégénéré. Et puis, ça m'est un peu resté quand même. Je l'ai revu, et là... En fait, ce qui m'a intéressée, c'est le lieu très concret. Et donc, je me suis aperçue que c'est tourné dans une petite ville qui s'appelle Truth or Consequences, vérité ou conséquence. Je me suis dit, mais c'est bizarre, aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle comme ça. En fait, c'est parce qu'en 1950, un animateur radio a dit aux gens, la première bourgade qui m'écrit et qui veut bien changer son nom, je viendrai faire l'émission là-bas et ça va lui apporter du tourisme, etc. On fera une fête tous les ans. Et c'est ce qu'il imaginait, un village qui s'appelle Masquer la Plume.
Quelle bonne idée.
Donc en fait,
dans le Jura,
on fait des belles fêtes.
Ouais. Et je me suis dit quand même qu'il en restait quelque chose, non pas pour conjurer, non pas pour quelque chose de cathartique. Effectivement, le film fonctionne comme une sorte d'essoreuse, quoi, qui s'emballe. Donc c'est un jeu de massacre. Mais en fait, c'est plus cette complaisance qui m'a marquée. C'est au contraire le désespoir sincère, en fait, de celui qui faisait ce film. Si. Et je me suis questionnée sur qu'est-ce qui est devenu la démocratie. Et je pense qu'il demande ça sérieusement. Sous des airs rigolards, il se pose la question. Et au fond, je trouve que moi, le film m'a aussi fait penser à Capra, c'est-à-dire comment, super idéaux, des idéaux sur le papier et quand même assez jeunes et assez récents de démocratie sont piétinés en fait tout le temps, tous les jours, dévoyés. Et moi, du coup, j'ai senti un questionnement assez profond.
Capra était beaucoup plus humaniste et beaucoup moins populiste que ne peut l'être
ce film. Parce que Capra, il interroge le cynisme. Il interroge lui-même le cynisme et si on peut le dépasser. Et là, juste dernière chose, on n'en a pas trop parlé, mais ils sont complètement envahis par les réseaux sociaux, les TikTok et les vidéos qui circulent. Et en fait, ce lieu très concret devient un lieu qui est bouffé par le virtuel. Là encore, on retrouve quelque chose de l'ordre du mythe de l'Amérique. La nouvelle frontière, ce serait ça. Enfin, la dernière frontière, ce serait ça. Et c'est ça qui les atomise tous. Donc finalement, j'ai trouvé que c'était un film assez intéressant, mais assez grave, enfin, et très sombre.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Eddington, cette bourgade, figure le chaos relationnel, politique, mental, en ligne, créé par Internet et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce truc très concret, un village de western, vraiment matérialise un chaos qui est presque virtuel et qui est en chacun de nous. Et c'est là où le film est vraiment intéressant. Ari Aster, c'est vraiment, il y a du génie du cauchemar. C'est-à-dire que c'est vraiment un cinéaste du cauchemar et du chaos. Alors, il est allé dans le précédent Boys Afraid avec Joaquin Phoenix, il est allé très loin dans le chaos névrotique, psychiatrique renfermé sur le moi. Et là, il part du même principe d'un personnage qui est central du film, qui est le moi, pour raconter en fait à quel point tout le monde n'est plus la conscience d'un monde plus grand que soi. Il l'a dit lui-même, nous avons perdu la conscience d'un monde plus grand que soi, plus grand que notre petit moi. C'est un film choral, communautaire, mais qui ne raconte que la folie de chacun. Et ça crée une espèce de chaos assez fascinant dans un village de western. Alors effectivement, il y a des défauts, c'est un film trop long, qui a vraiment des problèmes parfois d'écriture et de montage, mais c'est un film vraiment passionnant sur l'Amérique et même sur notre monde, qui raconte, je pense, quelque chose du chaos de notre époque assez fort. Et il y a Joaquin Phoenix, c'est encore une fois assez impressionnant, je trouve.
Xavier, est-ce que tu as vu le même film ?
Non, pas du tout. Je n'en peux plus d'Ari Aster et j'en peux plus de cette espèce de théorie fumeuse qui entoure ce cinéaste qui n'est vraiment ni subtil politiquement, ni subtil idéologiquement. On est donc pendant le Covid, tout le monde porte le masque sur injonction du maire démocrate et mexicain, puisque Pedro Pascal l'interprète, donc il y a quand même quelque chose qui est suggéré sans être dit, parce qu'en plus Ari Aster a le courage d'une huître, c'est là où il retrouve d'ailleurs Clint Eastwood, c'est-à-dire arriver à nous faire croire qu'il est de gauche en Europe et de droite aux États-Unis. Le film est profondément de droite, quand même, il n'a pas besoin. Quand même.
Il est de rien du tout.
Nicolas, tu ne m'auras pas au coup, je t'interromps avant que tu sortes tes arguments. On suit le personnage de Joaquin Phoenix,
qui est démocrate dans
l'histoire. Qui est le seul, je n'ai pas dit que j'étais démocrate, qui est le seul à ne pas porter de masque, qui vient à la rescousse d'un petit papy asthmatique qu'on a jeté en dehors du supermarché parce qu'il ne pouvait pas faire des complots, il ne pouvait pas mettre le masque. Alors, heureusement qu'il est gentil. On sait très bien la théorie du complot qui a accompagné le camp républicain pendant la crise du Covid, où effectivement, on nous assassine, le masque, c'est une privation de liberté. toute l'extrême droite dans tous les pays du monde, c'est fou, hein, j'ai là-dedans. Le personnage principal, c'est Joaquin Phoenix. On l'accompagne, il est victimisé. Les deux femmes du film, on retrouve la misogynie, ouais, mais récurrente d'Ari Aster, je n'ai pas encore fini, entre sa femme dépressive
mais j'aurais plus la parole après,
et sa belle-mère complotiste. Et,
ben voilà,
on se demande où est la démocratie dans cette histoire.
En fait, c'est toujours de la faute des femmes depuis tous les films d'Ari Aster. Et lui, c'est la pauvre victime dont on va finir par presque justifier d'une certaine manière la fin du film. Je trouve ça dégueulasse.
Tout le monde est pathétique. Il y a Pedro Pascal est corrompu.
Le coup de je renvoie à droite et à gauche. Non, regarde comment le film est construit et quel est le point de vue qui est suivi. Je t'en prie, Nicolas.
Mais c'est vrai que c'est un film complotiste sur le complot. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est un film paranoïaque et complotiste sur le complot.
Tu peux pas dire ça, on dirait.
Mais c'est pour ça qu'il est très premier degré et qu'il n'y a pas du tout de, je pense, tant de cynisme. C'est ça.
Quand tu traites un sujet pareil, le premier degré, pardon, mais
c'est un sujet pareil, c'est un cauchemar.
Si vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord, et j'y renonce.
Ces pays du monde, tout le monde est démocratique dans le film. Non, excuse-moi, c'est pas un sujet rigolard.
Il est temps de revenir au calme, de poursuivre avec votre programmation, vos lectures, séances supplémentaires, les coups de cœur du masque. Eh bien, Xavier, c'est à toi.
Je vous recommande Confidente de Sagla Zensisi, qui est turc, et Guillaume Giovannetti, qui est français. Et ça se passe dans quelque chose que nous avons tous fréquenté dans notre prime jeunesse, un standard de hotline. Une jeune femme est en train de répondre aux injonctions sexuelles d'un monsieur. Évidemment, c'est tarifé. Et c'est un huis clos d'une heure et quart, parfaitement huilé, parfaitement orchestré, qui, tout en plan fixe, va passer son temps, en fait, à faire un effet de travelling arrière. C'est-à-dire, depuis ce coup de fil, on va découvrir, quand on est en 1999, premier tremblement de terre qui va ensevelir Istanbul, elle est à distance, elle va essayer de sauver un jeune garçon qui est sous les pierres, on va découvrir que le jeune garçon est peut-être aussi l'élément métaphorique d'une corruption de la politique à cette époque-là, et on arrive à un polar, féministe, politique, sociologique, absolument passionnant, sans jamais quitter le plan fixe resserré sur cette femme au téléphone et sur ses comparses de jeu. C'est absolument magnifique.
Confidente de
Sagla Zenzirsi et Guillaume Giovannetti.
Charlotte.
Moi, c'est « Sept promenades avec Marc Brown » de Pierre Creton, un DVD paru chez JHR. C'est un film qui est sorti discrètement en janvier dernier. C'est une sorte d'herbier assez délicat. Et le cinéaste Pierre Creton suit un paléobotaniste britannique qui s'appelle Marc Brown et qui est installé en Normandie. Et ce type nourrit le projet assez fou de recréer une forêt primaire. Alors voilà, donc à vous la théorie des tubercules, les vertus de l'herbe marin, le persepierre.
Elle est explicitement expliquée. Hein.
L'orchidée abeille, la salicaire ou l'enante safranée, j'ai noté quelques noms. Et le film est accompagné d'autres courts-métrages comme ça, bucoliques, et d'un livre illustré avec des gravures, des dessins, une sorte d'autre herbier et d'autres promenades qui apprend comme ça à sentir et à voir et qui rappelle aussi que l'amitié, c'est quand même d'abord marcher et regarder ensemble.
Donc un digibook, cette promenade avec Marc Brown de Pierre Creton. Ariane.
Alors moi, j'ai très envie de défendre un film italo-américain qui s'appelle Vittoria, qui a été réalisé par Alessandro Cassigoli et Casey Kaufman. C'est un tandem, ils fonctionnent toujours ensemble. C'est un film qui est basé sur des événements réels, qui s'appuie sur des actrices et des acteurs qui ne sont pas professionnels et qui slalome constamment et magnifiquement, je trouve, entre le documentaire et la fiction. Il suit Jasmine. C'est une femme qui semble avoir tout pour elle. Elle a un mari aimant, elle a trois fils hyper sympas, son petit salon de coiffure qui marche très bien, ma foi. Mais elle est hantée par un rêve récurrent, un rêve qu'elle fait depuis que son père adoré est mort. C'est-à-dire qu'elle a un désir obsédant d'avoir une fille. Or, Jasmine, elle a la quarantaine passée, donc ça devient un petit peu compliqué. Et elle va embarquer toute sa tribu, rétive au départ, sur le long chemin de l'adoption qui va l'amener jusqu'en Ukraine. Je trouve que ce thème quand même de la famille qui est très récurrent au cinéma d'une façon extrêmement originale et intéressante.
Nicolas.
Alors moi, je vous parlais du plus beau film que vous verrez cet été, qui date de 2000, qui est un film qui ressort, donc c'est le film Yi Yi de Edward Yang, qui ressort en salle le 6 août, restauré en 4K grâce à Carlotta. C'est difficile à raconter parce que c'est vraiment un film qui raconte l'histoire d'une famille. Ça commence par un mariage, ça finit par des obsèques, comme toute histoire familiale. Et entre ces deux moments-là, pendant 2h50, il regarde des personnages de plusieurs générations évoluer, ils tissent des liens entre eux. Et c'est un film vraiment d'une ampleur folle. sur Taïwan, sur l'évolution de la société à cette époque-là, mais aussi un film qui parlera à tous les gens qui ont des familles, donc c'est-à-dire tout le monde. Vraiment, c'est un très grand film. Il a eu le prix de la mise en scène à Cannes en 2000. C'est Dancer in the Dark de Lars von Trier qui a eu la Palme d'Or. On s'étonnera pas de savoir que c'était Luc Besson qui était président du jury, puisqu'il a, il aurait dû inverser le... Et voilà. Et récemment, le New York Times a publié un classement des 100 meilleurs films du 21e siècle. Il est arrivé 40e. C'est bien trop peu. Donc, je vous conseille d'aller voir ce film, voilà, vraiment de découvrir si vous l'avez pas vu. Et ça s'accompagne d'un livre formidable de Jean-Michel Frodon qui s'appelle Le cinéma d'Edouard Yang et qui est très pertinent et très instructif sur toute la carrière de ce cinéaste.
Publié aux éditions
Carlotta aussi également.
Et moi j'ai pensé à vous, cher critique, parce que je suis en train de ranger ma chambre. Alors je sais, je vous raconte ma vie, c'est mon autofiction. Et je suis tombé sur un petit livre vert aux éditions PUF que l'on peut retrouver sur eBay ou en commandant sur... Dialogue avec Danné de Louis Skorecki, qui revient sur la période libération au début des années 2000. Les papiers de Skorecki étaient vraiment formidables, avec des attaques très nerveuses chaque fois, et notamment celle sur la chinoise de Godard. Par exemple, je ne résiste pas de vous lire juste le début. Godard, j'ai longtemps eu du mal à l'aimer, à m'identifier à lui, à me mesurer à lui. Pourquoi se mesurer à un cinéaste? Pourquoi s'identifier à lui? Vous ne comprenez pas? Cessez de lire. Et ça continue comme ça. Et ça donne vraiment envie de lire ce livre. Charlotte Garçon, Xavier Le Herpeur, Nicolas Chaleur et puis Ariane, merci d'avoir participé à cette tribune. Merci à tous les quatre. Merci aux équipes, au public, bien sûr, de l'Alliance française qui est venue malgré les vacances. Merci à vous toutes et tous. L'émission a été réalisée par Guillaume Giraud, à la technique Bruno Mourland, Nicolas Depagraf et Maxime de Peretti. Merci aussi à Ilinka Negulesco qui a préparé et qui a programmé ce masque cinéma. Merci à Laura Dumez qui en a pris le relais. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle séance de cinéma. Bel été !